Fausses factures, faux électeurs, commissions occultes, comptes en Suisse, marchés truqués et j'en passe, nous sont servis chaque soir à la télévision. Alors certains citoyens choisissent d'en rire ou d'en sourire, d'autres choisissent de s'en indigner ou de s'en offusquer. Mais ce qui est nouveau, c'est que certains hommes politiques eux-mêmes et certains journalistes de médias dits sérieux commencent eux aussi à en rire ouvertement ou à se rendre dans les émissions qui ont pour fonction de faire rire à propos de ces affaires. Alors les affaires et la corruption, faut-il en rire ou en pleurer? Et le fait d'en rire, est-ce que ça renforce ou est-ce que ça affaiblit la démocratie? Avec nous trois journalistes, d'abord deux journalistes politiques, Jean-Michel Apathy de France Inter et Éric Zemmour du Figaro, et un journaliste chroniqueur de télévision, Luc Rosenzweig, qui lui regarde la télévision pour le journal Le Monde, et avec nous enfin Gérard Miller, encore Gérard Miller, diront certains, et oui, encore Gérard Miller, parce que Gérard Miller, vous êtes au carrefour de plusieurs émissions qui jouent un rôle central dans ces nouveaux rires à propos d'affaires sur lesquelles on riait moins ou on riait pas il y a quelques années. Vous êtes chroniqueur chez Drucker et chez Ruquier, toutes les deux sur France 2. Avec Sophie Borne-Bennett, nous commencerons par d'autres images de l'actualité, pour certaines beaucoup moins drôles, comme cette image que nous vous projetions et sur laquelle nous arrêtions la semaine dernière dans notre émission sur la mémoire télévisuelle de la torture en Algérie, cette image d'exécution sommaire qu'on va voir, cette image absolument terrible d'exécution sommaire de civils algériens désarmés par des militaires français. Alors on l'avait vu la semaine dernière, cette image était extraite du film tourné par un de nos invités, le réalisateur André Gazu. Image absolument épouvantable, on l'a dit. Et on s'était interrogé la semaine dernière, et finalement, personne sur le plateau, il y avait là des réalisateurs, des journalistes, des historiens, personne sur le plateau ne savait exactement quelle était la provenance de cette image. L'historien Benjamin Stora avait supposé qu'elle avait été tournée en 55 pendant le soulèvement du Constantinois, mais il n'était pas sûr. Alors, tous autant que nous sommes, nous aurions dû regarder davantage la cinquième, puisque sur une émission de la cinquième de février dernier, qui s'appelait le Club des Archives, tout nous était raconté sur cette image-là.
Moi, j'étais à Aïn Abid le jour où ces images ont été tournées, le 22 août 1955. Le 20 août, il y a eu une insurrection générale dans le nord constantinois. Insurrection générale ordonnée par le FLN pour lancer les populations musulmanes à l'assaut des Français, et pas seulement des Français, également des musulmans qui avaient choisi la France. L'objectif recherché étant les réactions de l'armée et de la population, les représailles et le grand bain de sang, pour faire basculer définitivement la population musulmane du côté du FLN. On arrive à Aïn Abid, sous un soleil écrasant, dans une atmosphère très pénible. Il y avait encore des vêtements couverts de sang par terre. Et là, l'armée française montait une opération de ratissage. Tout de suite, on a entendu des rafales. Et on s'est approché, on est allé voir ce qui se passait. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu pour la première fois le fameux gendarme. Il est arrivé le matin, il était gendarme auxiliaire quelque part du côté d'Alger, il a été prévenu, il a vu sa famille massacrée, ce type est devenu fou.
Voilà, le fameux gendarme, c'est bien celui qu'on voit ensuite dans l'image en train de tirer. On le voit là, il est entouré d'un cercle. C'est pas le soldat qui est au premier plan, c'est celui qui est sur la droite de l'écran qu'on voit tirer sur les civils. Alors, c'est un de nos téléspectateurs qui nous a signalé cette émission de le Club des Archives de février dernier par Internet. Merci à lui. Et dans cette émission, d'ailleurs, on apprenait encore des choses sur cette image.
On apprenait également que ce fameux gendarme fera 60 jours de prison et que la France sera mise en accusation à l'ONU pour cette question algérienne.
Voilà, 60 jours de prison. On va revenir donc sur les images de l'actualité. Dans l'émission Les enfants de la télé sur TF1, diffusée en décembre dernier, Arthur avait trouvé une bonne occasion de rigoler.
Ah, avant de poursuivre, on me signale à l'instant que nos camarades de France 2 viennent de nous rejoindre sur TF1, puisque ce sont les pubs sur l'autre chaîne. Soyez les bienvenus, c'est les enfants de la télé spéciale bêtisier. Et alors, vous avez raté une première partie de l'émission extraordinaire. Ah oui. Dieu merci, il en reste encore 2-3, donc restez bien accrochés.
Voilà, Arthur accueille donc sur TF1, pour ceux qui n'auraient pas bien compris, les téléspectateurs qui viennent de France 2 et qui zappent, puisque l'émission vient de se terminer. Alors, un peu plus tard, dans la même émission, nouvelle crise de rire sur le même sujet.
Je vous l'ai dit, cette émission est en direct et on me fait signe que Thalassa sur France 3 vient de se terminer. Accueillons les téléspectateurs de France 3 qui nous rejoignent. Bravo.
Voilà, alors donc, qu'est-ce qu'on rigole? Les téléspectateurs de France 3 et de France 2 arrivent sur TF1. Alors, on a surtout l'impression qu'il avait envie de nous dire une chose, là, c'est qu'il était en direct, Arthur.
Il avait très envie de le dire, parce que c'était la première fois que les enfants de la télé étaient en direct. Mais néanmoins, on voit que c'est quand même une stratégie assez pensée, puisqu'on sait que lorsqu'il y a de la publicité sur une chaîne ou un générique de fin, les téléspectateurs zappent, et tant qu'à faire, autant qu'ils zappent sur TF1.
Voilà, Éric Zemmour a tout compris.
J'ai mis du temps, excusez-moi.
Voilà, on va vous décrypter l'image. C'est-à-dire, on a l'air de rigoler. Hein, Arthur a l'air de faire rigoler tout le monde. En fait, c'est de la stratégie.
J'ai compris.
Voilà, heureusement qu'Éric Zemmour.
Il rigole aussi, là, les artistes. Là,
ah, bah tout le monde. Tout le monde rigole.
C'est bien. C'est bien.
Alors, un peu plus tard, dans la même émission, c'était donc à Arthur de lancer à son tour la pub sur sa chaîne TF1.
On l'a dit tout à l'heure, il y avait de la pub sur France 2, sur France 3. Ces gens-là n'ont pas le monopole de la réclame, puisque nous-mêmes, nous allons passer un écran, mais très très court. Chez nous, c'est très très court.
Alors, très très court en langage TF1, ça veut dire combien, à peu près?
Ça veut dire 7 minutes et quelques secondes quand même.
Très très court.
Quand même.
On a le temps d'aller voir ailleurs.
Ouais. Mais Arthur s'est rendu compte, donc, par cette petite phrase, que les téléspectateurs de TF1 risquaient aussi peut-être de zapper sur France 2 pendant leur publicité. Mais en fait, c'est encore très pensé, puisque son producteur en régie, d'après ce que me dit Arthur, donc, lui dit à quel moment la publicité doit être envoyée. Ils ont à peu près une fourchette d'une vingtaine de minutes. Et en fonction de ce qu'il y a sur les autres chaînes, ils lancent la pub. Et comme me dit Arthur, s'il y a une femme à poil sur France 2, ils ne vont pas lancer la pub à ce moment-là. Parce qu'il faut que les téléspectateurs reviennent sur TF1.
Tu parles comme ça, Arthur ?
Un peu.
Alors, voilà. Donc, on a bien compris une gestion très, très habile de la pub pour avoir le plus de téléspectateurs possible. Alors, quelques semaines plus tard, toujours en regardant TF1, les 7 péchés, capitaux. Oh, surprise, voilà que Julien Courbet à son tour.
Vous suivez les 7 péchés capitaux. Nous allons saluer nos amis marins de Thalassa qui viennent de nous rejoindre, car l'émission est terminée. Ils viennent en général sur TF1. J'espère que la mer était bonne et que vous allez passer un petit moment avec nous.
Voilà, bon, alors là, méfiants comme nous sommes, hein, vous me connaissez, on s'est dit, bon, alors là, c'est une stratégie qui a été pensée au sommet. C'est au sommet de TF1 qu'ils leur ont dit, vous allez... toujours saluer les téléspectateurs et chaînes concurrentes, non ?
Julien Courbet n'a pas voulu s'exprimer sur la question. En revanche, Arthur me dit que c'était son idée. Il y a pensé tout seul.
Et qu'il a été capable d'y penser tout seul.
Voilà.
Bien, voilà. Notre enquête provisoirement s'arrête là.
Je peux compléter votre information. Quand je participe à l'émission de Laurent Ruquier, on a tout essayé. On a deux conducteurs. Un conducteur qui nous dit dans quel ordre les séquences vont être tournées et un conducteur qui nous dit dans quel ordre les séquences vont être diffusées. Et sur le séquencier de la diffusion, il y a marqué parallèlement exactement ce qui se passe sur l'autre chaîne, les moments de pub et ce qu'on anticipe.
Mais ils ne peuvent pas le savoir, puisque justement, on vient de voir qu'eux-mêmes, sur TF1...
Comme c'est De Chavannes qui est en face, manifestement, ils ont un certain nombre d'informations pour savoir à quel moment la pub va intervenir sur TF1. Moi, je peux vous dire que j'avais ce séquencier devant moi, qui ne semblait d'ailleurs pas choquant, mais en tout cas, on avait le double séquencier.
Ouais, c'est la concurrence permanente. Oui,
permanente. Alors, dernière image de la semaine dernière, à propos d'Yvan Colonna, assassin présumé, comme vous le savez, du préfet Erignac, qui a envoyé une lettre à un journal, la ministre de la Justice, Marie-Lise Le Branchu, lui donnait un conseil.
L'idéal pour lui, c'est d'aller devant le juge d'instruction, parce que, à la limite, s'exprimer comme ça, c'est presque se présumer coupable, alors qu'il est présumé innocent, il doit être jugé par un tribunal correctionnel.
Alors, on a bien entendu, Marie-Lise Le Branchu dit un tribunal correctionnel. Alors, pourtant, Yvan Colonna est bien soupçonné de l'assassinat du préfet Erignac. Et moi, en tout cas, je savais, tout le monde ne le sait pas forcément, mais moi, je savais que l'assassinat, c'est plutôt la cour d'assises que le tribunal correctionnel.
Pour une ministre
de la Justice, ça peut paraître un peu gênant. Ça, c'était au 12-14 de France 3. Le soir, TF1 et France 2 avaient choisi, pourrait-on croire, de sauver la mise à la ministre.
J'espère que tous ceux qui le connaissent pourront le convaincre que l'idéal pour lui, c'est d'aller devant le juge d'instruction.
À quelques semaines de la fin de l'instruction du dossier Erignac, cette lettre a des airs d'offensive.
À la limite, s'exprimer comme ça, c'est presque se présumer coupable alors qu'il est présumé innocent.
Et cette lettre va maintenant être décortiquée par les enquêteurs.
Ils sont gentils. Alors évidemment, on s'est demandé, ont-ils voulu éviter une humiliation médiatique à Mme Le Branchu ? On les a interrogés, Sophie ?
Oui, à France 2, on me dit que non. En revanche, à TF1, la journaliste a préféré ne pas diffuser cet extrait par, je cite, « respect pour le téléspectateur et la ministre ».
Respect pour le téléspectateur et la ministre.
Ouais. Quand elle a été nommée ministre, elle a avoué elle-même qu'elle n'y connaissait rien.
Ouais. Apparemment, elle n'a pas fait beaucoup de progrès depuis.
Donc, les progrès sont lents.
Ouais. Mais alors, c'est, on comprend bien l'argument du respect, mais le fait qu'elle n'y connaisse rien est aussi une information. Donc, ouais. On pourrait supposer que ça soit...
Enfin, il ne faut pas être très diplômé pour savoir que l'assassinat, c'est effectivement, aussi, c'est la cour d'assises.
C'est plutôt les assises.
Vraiment.
Alors, on va en arriver à présent aux affaires et la première séquence, par ordre de fraîcheur qui vient immédiatement à l'esprit et sur laquelle je voudrais qu'on s'arrête dans tout ce feuilleton interminable des affaires de corruption, c'est un arrêt sur mot, un mot de Madame Danielle Mitterrand, mère de Jean-Christophe Mitterrand, veuve de François Mitterrand.
J'ai réuni la somme, j'ai apporté pour payer la rançon. Je dis bien la rançon.
Alors, ce mot de rançon a suscité une énorme émotion. On l'a énormément reproché à Daniel Mitterrand. Gros impact médiatique. Et pourtant, ce n'était pas la première fois qu'il était prononcé, puisque la semaine précédente, Gilbert Mitterrand, sur le plateau de France 2, dont le frère de Jean-Christophe Mitterrand, l'avait déjà prononcé.
Aujourd'hui, c'est le montant de la caution, qu'on peut appeler autrement. C'est une caution. Pour d'autres, c'est une rançon.
Alors c'est vrai que c'était moins affirmatif, hein. C'était moins péremptoire dans la formulation. D'ailleurs, personne ne l'avait remarqué, et personne n'avait remarqué non plus que Claude Sérillon, un peu plus tard dans la même émission, reprenait ce mot dans sa bouche.
Votre frère est en prison depuis le 21 décembre, il ne veut pas sortir en payant cette rançon.
Voilà, et la personne, et tout d'un coup, quand c'est Daniel Mitterrand qui le dit... Vous voyez, Jean-Michel Apathy ?
Il y a une différence notable, c'est-à-dire que sur le plateau, Sérillon et Gilbert Mitterrand discutent de quelque chose qui ne s'est pas produit. Daniel Mitterrand vient de poser, je ne sais pas, un chèque, j'imagine, de 5 millions. Alors, fatalement, elle a dû être obligée de le faire, et là, il y a toute la colère, toute la rancœur aussi qui s'exprime. Donc, c'est une rançon, elle le vit comme ça. Elle est en guerre contre la magistrature, et le mot qu'elle choisit... Et le mot qui exprime le mieux son état d'esprit.
Oui, alors on ne sait pas si c'est une colère ou si c'est une stratégie, parce qu'elle insiste. Hein, rançon, je dis bien rançon, c'est-à-dire qu'elle a envie...
C'est les deux.
Oui, c'est ça. Ouais.
C'est une colère et une stratégie.
Je peux faire une manifestation d'indulgence à l'égard de Mme Mitterrand.
Nous étions indulgents,
pareil. Alors, je serai encore plus indulgent, si vous voulez. Parce que moi, une mère, même un frère, qui défend un membre de sa famille... Je dis « a droit à des exagérations ». Moi, si vous voulez, c'est des choses que j'accepte. J'accepte pas ça d'un homme politique. D'accord. Qui parlerait en tant qu'homme politique de ces choses-là, mais en tant que membre de la famille, écoutez, j'ai tendance à...
On engagera le débat plus tard. On engagera un mot, Gérard Miller, sur ce... Non,
non, non. Je suis d'accord avec ce que
vous êtes d'accord avec
okay. Oui, tout à fait.
Alors, je voudrais d'abord, pour qu'on puisse mieux vous situer tous les quatre et mieux situer où vous vous situez, justement, dans ces affaires-là, je voudrais que vous passiez un certain nombre d'extraits très courts, hein, qui ont jalonné la chronique imagée de la corruption ces derniers mois à la télévision, et que ensuite chacun de vous quatre réagissiez très rapidement, sans engager le débat, on l'engagera plus tard, sur chacun des extraits qu'on va voir. Ce que je voudrais, ce sont un peu vos réactions d'hommes et de citoyens. Alors, premier extrait, évidemment, à propos des marchés truqués d'Île-de-France, la réaction de Jacques Chirac.
Je vais vous dire très franchement une chose, je ne peux pas y croire.
Je trouve cette image fantastique, moi.
Très bien.
C'est fantastique. Le talent de l'acteur consommé, quoi. C'est exceptionnel.
Je ne peux pas y croire. Moi, c'est sur le verbe pouvoir que je me suis arrêté. Vraiment, il résiste à quelque chose. J'étais assez frappé par l'emploi de ce verbe. Il ne dit pas je n'y crois pas. Il dit je ne peux pas y croire.
Mais moi, c'est le franchement que je recadrais. Parce que c'est vrai, il le dit avec tant de conviction que je serais presque prêt à le croire.
Moi, je vais plus loin. Moi, je le crois. C'est-à-dire que je le trouve là tellement convaincant que je ne vois pas au nom de quoi je ne croirais pas le président de la République que je n'ai pas élu, mais qui est quand même celui de tous les Français. Donc, moi, je le crois.
Très bien. Alors voilà, on a commencé à, je pense qu'on commence assez bien à vous situer à propos de la même affaire de corruption à la mairie de Paris en Ile-de-France et de la cassette, la fameuse cassette mairie qui contenait un certain nombre d'accusations. La réaction de Dominique Strauss-Kahn, ancien ministre de l'économie et des finances, sur le plateau de TF1.
On me l'a tendu, je l'ai pris, je l'ai rangé dans un tiroir et je ne m'en suis plus préoccupé. Je ne l'ai effectivement ni visionné, ni donné à quiconque.
Alors c'est pareil, vous le croyez ?
Mais oui, je le crois et je trouve que c'est formidable qu'on ait l'idée que dans une démocratie, lorsque quelqu'un dit quelque chose et qu'on pense que c'est faux, il faut le prouver. Moi, jusqu'à preuve du contraire, je ne pense pas qu'on ait prouvé que DSK avait menti. Si c'est le cas, et bien effectivement, j'en serais le premier à le reconnaître. Pour l'instant, je le crois.
Jean-Michel Apathy.
Moi, je ne le crois pas. Dominique Strauss-Kahn, à l'époque où il reçoit la cassette, et plus ou moins regarde en tout cas la situation parisienne pour éventuellement être candidat. Un ami à lui vient lui dire qu'il y a une cassette qui concerne le RPR et que, mon Dieu, sans doute, il doit lui dire, ben regarde-la. Et Dominique Strauss-Kahn, il dit, ben moi, je ne l'ai pas regardé. Écoutez, moi, je veux bien qu'on croit tout, mais si on croit ça.
Éric Zemmour.
Oui, pareil.
Vous ne croyez pas
Alors moi j'ai plutôt tendance à le croire.
Encore une fois.
Là j'ai des éléments objectifs pour appuyer cette pour appuyer cette conviction. C'est pas parce que j'avais suivi dans une vie antérieure une campagne électorale de Dominique Strauss-Kahn dans un département que je connais bien, qui est la Haute-Savoie, et je l'ai trouvé totalement, je m'excuse de m'exprimer comme ça, bordélique. Hein, et je m'étonnerais pas qu'il ait vraiment perdu, qu'il ait vraiment perdu cette chose. Mais ça, c'est...
Ah, perdu et pas regardé n'est pas la même chose.
Hein. Oui, bon. Ouais. Voilà. Il a peut-être pas regardé parce qu'il avait perdu. Alors, c'est
Sur le plateau de TF1, Xavier Tibéri parlant de son mari.
Vous savez, mon mari, ça va vous paraître ridicule. C'est un innocent, c'est un saint. Il sera sûrement un jour béatifié.
Alors, personne ne rit, je remarque que sur le plateau, personne ne rit.
C'est une phrase qu'il faut prendre au premier degré parce que Xavier Tibéri a raison. Son mari est un saint dans le monde où il a vécu. Vous comprenez ?
Expliquez-vous.
Il est un saint pour Xavier Tibéri par rapport à d'autres, par rapport à ce qui était à l'hôtel de ville. Xavier
pour
Tibéri.
Elle. Pour elle.
Xavier Tibéri dit vrai.
De son point de vue ?
De son point de vue. Elle dit vrai.
Ah non, mais Xavier Tibéri est la personne, une des personnes les plus authentiques dans un monde frelaté. Xavier Tibéri est un personnage incroyable. Moi, je me suis amusé à faire des portraits de Xavier Tibéri. C'est un vrai personnage de roman. C'est quelqu'un de, à la fois de fou, c'est-à-dire d'incontrôlable, de fou, d'imprévisible, de toqué dans l'irrationnel, et en même temps d'une authenticité incroyable.
D'accord. Alors, je note que pour l'instant, personne n'a ri sur ce décret. Alors, Dieu sait qu'après ce passage, les Lignols, Saint-Jean, Mont-Saint-Jean, etc.
C'était drôle, mais c'est pas juste. C'était drôle de se moquer d'elle, mais ça n'était pas juste.
Moi, j'ai une idée complètement folle qui me passe par la tête, que je vais vous dire. C'est, j'imagine ma femme disant ça de moi. Alors, je l'enverrai chez le petit gars.
C'est vrai, je crois que là où elle a raison, c'est de penser qu'il est un saint, parce que manifestement, c'est comme ça qu'elle le voit. D'évoquer qu'il soit béatifié, c'est une autre chose. Ça supposerait qu'il y ait beaucoup de gens qui...
C'est avant la béatification.
Oui, mais ça supposerait qu'il y ait beaucoup de gens qui soient d'accord avec elle. Alors, par chance, il n'y a qu'elle qui vit avec lui maritalement, en étant mariée.
Alors, dernière image, je ne sais pas si elle va faire rire, sourire, j'en sais rien. C'est Lionel Jospin amorçant le revirement de sa position sur le cumul des mandats. Vous savez qu'il avait dit au début qu'il interdirait à ses ministres d'être maire de grande ville en même temps. Donc, début du revirement, c'est sur TF1.
Je dirais ce que je fais en fonction d'une situation concrète que j'aborderai pragmatiquement. Les doctrines sont faites pour ne pas être dogmatiquement appliquées.
Voilà, là non plus, je vois vos mines, personne...
C'est une phrase du sapeur Camembert, ça. Je veux dire, il y a des principes, mais on sera pragmatique dans l'application des principes, donc il n'y a pas de principe. Son ennui est tel qu'il en arrive à... C'est le sapeur Camembert, voilà.
Alors, quand vous voyez ça chez vous, sur votre poste, vous êtes accablé, affligé, au contraire, ça vous fait sourire. Comme PPDA, d'ailleurs, c'est très intéressant à l'image, on va le revoir, c'est que PPDA sourit. Genre, je m'y attendais, on savait bien, voilà...
Oui, on peut sourire, oui, on peut sourire, bien sûr.
J'ai aucun avis sur le cumul, autorisé. Hein. En revanche, j'ai un petit avis sur la manière dont Jospin parle là, qui est, je vous pose la question à vous tous, messieurs, mes interlocuteurs, si il avait dit les principes sont faits pour être dogmatiquement appliqués, qu'auriez-vous dit
On aurait dit encore le Jospin.
Donc voilà.
Oui, mais votre question
c'est vrai, c'est vrai, les bonnes questions.
Non, alors, quand on parle de principes, on parle de principes, on a des principes, on n'est pas à côté de
Zemmour
mon principe,
Zemmour
le monde
souris.
Dogmatique. Voilà.
Non, je souris parce que, bon, évidemment, les principes sont faits pour être
en tout cas amendé au moins. Mais surtout, le problème qui se pose avec Jospin, c'est qu'il a fait du respect des principes et d'une certaine intégrité morale, voire psychologique, l'argument de son retour politique. Et en plus de la rupture avec le mitterrandisme, présupposé ondoyant, machiavélien, etc., etc. Donc ça va lui poser un problème.
Et vous pensez que, par exemple, c'est pour ça que PPDA sourit ?
C'est pour ça que PPDA sourit, parce qu'il l'attendait, parce qu'il sait bien qu'en fait...
Il ne pourra pas, Jospin, faire plusieurs fois ce coup-là. C'est-à-dire, sur cette fois-là, bon, je ne dis pas qu'on lui pardonne ou pas, mais s'il le fait à plusieurs reprises, c'est vrai que ça commencera à être un
peu lourd. Mais déjà commencent les papiers sur le thème le retour du mitterrandisme, etc. etc. Donc, là...
Très bien. Alors, je crois qu'on vous situe maintenant, chacun de vous quatre, un peu mieux. Alors, on va en arriver au vif du sujet. Il arrive de plus en plus souvent, nous a-t-il semblé, qu'on rit à la télé dans certaines émissions d'affaires scandaleuses ou douloureuses, ou choquante, et de plus en plus souvent aussi avec la participation des intéressés eux-mêmes. Un petit montage.
C'est l'hélicoptère dans l'Himalaya, Jacques. Je suis obligé de vous en parler quand même.
Oui, côté Nicolas Hulot, là.
Ça, vous pouvez... Alors, je raconte l'histoire en deux mots. Hein. Donc, il y avait un procureur. C'est l'affaire du Conseil général de l'Essonne. Donc, c'est exact.
Ah, là, on va se marrer.
Il y a quoi faire un petit fichier. Hein.
Si vous étiez élu, donc plus d'emplois fictifs. Donc,
C'est bien la moindre des choses.
Donc il faudra vraiment aller bosser à 8h du matin et vraiment faire un boulot.
Ça peut être 9h, ça peut être
9h. Et un solde de salaire juste à la fin du mois.
Oui, oui.
Et
oui.
Rien entre les deux, même pas une petite enveloppe pour tenir le coup.
Que dalle.
Et plus d'un HLM aux copains.
La fameuse paire de chaussures à 11 000 francs.
Oui.
C'est vrai que ça impressionne les gens, une paire de chaussures à 11 000 francs. Marcher avec un SMIC à chaque pied, c'est énorme. Depuis, quand on parle du président du Conseil constitutionnel, on dit Roland Dumas et ses pairs, il y a un rapport.
Et alors, dans Match, on voyait à la brasserie Lippe en train de manger un steak tartare. C'est là, c'est même pas cuit.
C'est une cascade en ce moment. Hein. Même Rémi Julien ne le fait pas, ça.
mais bon. Vous n'avez pas une prime de risque, là?
Non, j'ai pas de prime de risque.
Quand il mange Jospin, il lui dit, attends, t'es gentil, fais-moi une prime de risque, merde. Et puis il y a les huîtres aussi.
Je note votre suggestion.
Il était obligé de bouffer des huîtres.
Les huîtres.
Non, parce qu'il était obligé de montrer que les huîtres, c'est un produit archi-sain. Donc on l'envoie en Bretagne et il bouffe des huîtres après la viande. Quelle horreur.
Bon, c'est simple. Hein. Les ministres, Jean de Lavagny, va rire sur la vache folle, va se faire expliquer que finalement, manger de la viande, c'est très dangereux, alors qu'il passe sa vie sur d'autres plateaux de télévision à expliquer le contraire. Et il n'y trouve rien à redire. Est-ce que, simplement, ce type de spectacle, question très large, renforce ou affaiblit la démocratie ? Jean-Michel Apathy.
Oh, je crois que... Je ne sais pas si ça la renforce. En tout cas, ça ne lui fait pas de mal. En ce sens que ça fait comprendre à tout le monde que la politique n'est pas la chose cardinale de la société, que les hommes politiques sont tout le monde. Jean Glavany, par exemple, dans l'extrait que vous avez montré, ou Jacques Toubon, avant, sur l'hélicoptère, était un peu penaud. C'est un peu la seule façon, là, pour Jean Glavany, par exemple, de lui dire qu'aller poser chez lui pour manger un steak tartare et puis être en photo dans Paris Match, c'est en faire un peu beaucoup. Donc on se moque de lui, et c'est bien. Au fond, ils ont un comportement plutôt démocratique. Et c'est paradoxal pour eux, parce que Glavany va chez Ardisson pour soigner son image. Il est tourné un peu en ridicule, il aurait bien fait de ne pas y aller. Bah, tant pis pour lui.
Riz-Zemmour ?
Non, j'écoute. Je pense que la présence des politiques chez Ardisson et à d'autres émissions traduit bien une évolution, je dirais, allez, de ces 10-15 dernières années, qui est la ridiculisation des hommes politiques. C'est-à-dire que on est passé en France d'une sacralisation de la politique qui peut remonter pour les uns à la Révolution française, pour les autres à la monarchie absolue, qui a été revitalisée par le général de Gaulle qui voulait justement redemander, etc. Je vous passe l'histoire. Et depuis le milieu des années 80, nous sommes dans une évolution à une vitesse folle qui fait que nous nous alignons. Et même peut-être, je connais moins bien les pays étrangers, mais peut-être que nous les dépassons, en tout cas nous nous alignons sur les autres pays, c'est-à-dire que en France aujourd'hui, la politique et les politiques, c'est quelque chose non pas de cardinal, mais de marginal, voire ridicule. C'est-à-dire que nous vivons la fin de l'ère politique.
Ok. Et alors, vous en réjouissez ou vous le déplorez ?
Moi, je le déplore parce que d'abord, j'aime la politique depuis tout petit.
Pas vous ?
Si, j'aime la politique, mais j'aime la politique pour ce qu'elle est. C'est-à-dire que la société est plus forte que les hommes politiques.
C'est pas de la politique, ça.
La société est plus forte que les
hommes politiques. Mais non, donc la politique n'existe pas.
Donc, mettre les politiques à leur place, c'est-à-dire, non pas, encore une fois, comme des surhommes, je trouve que c'est quelque chose de bien. Et voir un homme politique qui va chez Ardisson et qui, de, qui,
qui est tourné en ridicule, c'est pas la même chose chez Drucker, on y reviendra, mais qui va chez Ardisson, qui est tourné en ridicule, je trouve que c'est bien. Voilà. Ouais, je trouve que l'image est une image démocratique.
Voir le politique, c'est pas démocratique, c'est ridicule. C'est-à-dire que le politique, entre une jolie actrice dont on regarde le décolleté pendant un quart d'heure, et
Béroux, hein.
Ruquier. Non, mais moi le premier, hein, je veux dire, moi le premier, comme tout le monde. Bon. Et les clowns de service dans l'émission. Bon, moi, ça me fait rire. Je regarde. Attends, je suis schizophrène aussi. Mais je dis, c'est la fin de la politique à la française.
Oui.
C'est tout.
Gérard Miller, qui est clown de service dans certaines de ses émissions.
Oui. Bon, d'abord, moi, je dois avouer que je préfère les clowns à beaucoup d'autres personnes.
Ah, moi aussi.
Mais moi, ça ne me choque pas, évidemment, parce que j'ai l'impression que ça ne réduit pas. Ça ne dit pas tout de la politique. Le grand problème de la télévision, on ne va pas l'aborder aujourd'hui, c'est la disparition des émissions politiques. Du coup, on charge les autres émissions de tous les péchés de la Terre. Là, je trouve plutôt amusant que les hommes politiques viennent rire avec des humoristes. On se demande toujours, alors, on leur demande toujours, est-ce que vous avez vu votre caricature au Guignol? Est-ce que vous savez ce qu'on a vu de vous? Là, ils le savent puisqu'on leur dit devant eux. Mais ne pensez pas que pour autant, il n'y ait que ça en matière de politique. Je trouve que c'est ça qui est triste. C'est qu'on a l'impression que...
Mais il n'y a plus que ça.
Non, c'est pas vrai.
Mais ce n'est pas vrai. Les journaux télévisés donnent un plateau aux responsables politiques pour qu'ils s'expriment en tant que responsables politiques.
Ce que je peux ajouter juste sur le ridicule, c'est que c'est vrai que vous pouvez les trouver à l'occasion ridicules dans ces émissions. Moi, je les trouve aussi ridicules lorsqu'ils prennent leur mine compassée pour nous dire un certain nombre de...
Ils peuvent
aller tenir les discours de bois.
C'est vrai qu'ils peuvent être ridicules dans ce cas-là aussi.
C'est aussi le ridicule du sérieux. Donc là, c'est le ridicule de l'humour.
Oui, alors il y a effectivement rire des hommes politiques et puis il y a rire de la vache folle, qui est une affaire douloureuse pour beaucoup de gens,
qui
est douloureuse pour les morts qui sont déjà morts, ceux qui sont malades, qui est douloureuse de l'autre côté pour les agriculteurs, parce que le troupeau à l'abattoir, tout ça. Est-ce que c'est sa place?
Non, je veux dire, c'est pas pareil. J'aurais trouvé invraisemblable qu'on puisse rire, par exemple, de l'homme qui est du sang contaminé ou de l'homme qui est en train de fuir actuellement après avoir tué 4 personnes. Bon, là, la vache folle, évidemment, c'est une peur pour tous. Donc, c'est vrai aussi que vous êtes habitué dans la vie courante à ce qu'on rit parfois de choses un peu tragiques.
Ah, c'est vrai,
aussi, essayez nous-mêmes d'avoir moins peur, parce que chaque
ça
fois,
sert à ça, si les vannes sont bonnes, ça ne me prend pas à conséquence.
Parce que nous sommes concernés tous, mais je n'aimerais pas qu'on rit de quelqu'un qui est dans une position de fragilité ou de souffrance.
Et puis, précisément, on a ri là, dans la séquence. Ce qu'on a vu, de l'image qu'a fabriqué Jean Glavany. C'est-à-dire aller manger un steak tartare en convoquant un photographe de Paris Match pour immortaliser l'instant. On s'est moqué précisément de ça.
Alors, Éric Zemmour, vous a traité gentiment de clown de service. Alors, ça tombe bien.
Non, mais vous
ne vous en êtes pas.
C'est Ruquier que j'ai traité de clown de service.
Ah, d'accord, pardon.
Chardisson.
Alors, j'irai que l'actualité nous sert un peu, puisque cette semaine, dans l'émission de Laurent Ruquier, c'était mardi, c'était donc avant la libération de Jean-Christophe Mitterrand, vous avez utilisé l'affaire Jean-Christophe Mitterrand comme matière première de, je ne sais pas comment dire, un sketch, une séquence. On va tout de suite en voir un montage.
Vous le savez tous, maintenant, JC a passé la nuit de Noël en prison. Le fils de l'ancien président de la République n'a pas voulu payer la caution de 5 millions de francs fixée par la justice pour qu'il soit libéré. À défaut de pouvoir organiser nous-mêmes un télétonton pour réunir cette somme, Gérard Miller a tenté l'impossible, lancer une grande opération de solidarité en faveur de celui qui est passé de la cellule africaine de l'Élysée aux cellules parisiennes de la santé.
Bonjour. Électeur non repenti de François Mitterrand, j'ai décidé de tester pour vous la solidarité des Français avec sa famille. Pour libérer Jean-Christophe Mitterrand, la justice lui réclame 5 millions de francs. Qui est prêt à acheter des livres ou des souvenirs ayant appartenu à son père pour recueillir la dite somme?
C'est des cailloux de la roche de Solutré, c'est 10 francs.
Alors je prends un caillou.
C'est qu'il a 13 millions en
Suisse. Là, ce que vous faites, c'est scandaleux. Franchement, c'est scandaleux. C'est honteux. Moi, je serais la police, je viendrais vous arrêter. Parce que vous marquez Journée nationale, d'abord. Nationale, je ne sais pas si vous êtes beaucoup. Hein, vous ne pouvez pas être beaucoup. De soutien à Jean-Christophe Mitterrand. Un repris de justice.
Les portes du pénitencier.
Bon, en tout cas, ça marche bien, tout le monde sur le plateau. Enfin, presque tout le monde.
Non, j'ai pas ri, moi. Non, seulement je suis pas attentif, mais je suis pas d'accord. Simplement, voilà. Je le dis en toute sincérité à Gérard Miller, parce que c'est quand même très facile de pousser le poujadisme des Français jusqu'à en faisant de la provocation la plus, disons, la plus grossière. Hein. Et là, c'est vrai que cette affaire-là, bon, d'abord, Jean-Christophe Mitterrand n'est pas un homme politique, Jean-Christophe Mitterrand, je n'ai aucune opinion, enfin, si j'en ai une, mais enfin, elle n'intéresse personne. Je dis c'est un coup de pouce hein, à une attitude qui est de dire finalement tous pourris, tous dans le même
sens. C'est l'inverse que je
veux dire.
Attends, en tout cas, si c'est ça, vous n'avez pas réussi. À mes yeux. Hein.
Ouais. Alors, c'est l'inverse.
Dans le commentaire d'ailleurs que j'ai fait avant et après, j'ai justement essayé d'expliquer que c'est terrible, dès qu'on met quelques signifiants, 5 millions, Mitterrand, prison, trafic d'armes, immédiatement on suscite chez les gens cette forme d'indignation.
Mais alors, aussi, qu'est-ce que vous voulez dire qu'est-ce qu'elle veut dire quel est le message que vous voulez faire passer
C'est pas toujours qu'il y a un message à faire passer, mais je pense que c'était l'occasion.
Non, mais c'est vous qui le dites.
Non, c'est l'occasion d'engager un débat sur le fait que cet homme, qui est toujours présumé innocent, soit si facilement condamné simplement parce qu'on accole quelques signifiants à son nom. Là, je suis très discret. Dit aussi.
Donc il y a un message. C'est un message le message implicite est un message de soutien, à Jean-Christophe Mitterrand.
Non, mais c'est parce que je suis en mission. Je pense simplement, moi, si j'ai alors quelque chose à faire à la télévision, c'est de temps en temps de montrer à quel point il est facile, en effet, de fausser les jugements. Je me suis amusé à le faire pour la voyance. Ici, avec Mitterrand, on voit finalement quoi ? Que dès le moment où on dit aux gens Mitterrand, 5 millions, prison, etc., immédiatement, les gens ont le sentiment qu'il est déjà coupable. Et je l'ai dit sur le plateau. Je trouve ça scandaleux. Et j'ai évoqué moi,
d'accord,
au contraire,
d'autres éléments. Il y a un message très clair.
J'ai trouvé émouvant. Ouais. On ne l'a pas montré, je le regrette. Une dame qui, à un moment donné, a vu elle Mitterrand. Elle a sorti une pièce de 10 francs, une vieille dame. Elle est allée donner cet argent. Je lui ai rendu, bien évidemment. Je crains, si vous voulez, que justement, ce type d'émission nous montre à quel point la télévision fabrique des coupables avant qu'ils ne soient jugés.
Oui, mais enfin là, elle nous montre surtout à quel point l'émetteur, c'est-à-dire vous, peut avoir des intentions qui ne sont pas du tout comprises par le
réseau. Non, j'ai pas compris. J'ai rien compris.
Il a vu qu'un petit morceau, Rosenstein.
Non, mais il est.
C'est un tout petit morceau. Il a vu que
c'est mon j'ai bien vu
l'ensemble de l'émission.
Pas tout à fait, mais ce que vous aviez dit là. Mais simplement, ce qui passe, hein. C'est ce qui est la force des images, des gens qui n'ont pas de devoir comme vous, souvent d'ailleurs, sur l'écran. Hein, c'est pas le. Moi, j'ai.
Moi, dans la séquence que j'ai vue, vous voyez, ce qui me marque le plus, c'est cette femme qui se retourne et qui dit il a 13 millions de francs, et c'est dégueulasse. Vous ne suscitez pas des réactions, ou plutôt vous les suscitez devant la caméra, parce que quand cette affaire a éclaté, s'est développée, et quand on en a connu les éléments. Il y a des millions de gens, sans doute, qui ont trouvé anormal que quelqu'un qui porte le nom de Mitterrand, c'est ça la force de la politique, ait un compte en Suisse avec 13 millions de francs,
normal qu'un
pas déclaré au fisc.
Normal qu'un candidat à Front National à Paris. Bon, moi,
c'est autre chose. Et je crois que la femme qui se retourne et qui dit il a 13 millions sur son compte en Suisse, elle exprime une indignation qui est très largement ressentie dans la population et que je partage. Quand on s'appelle Mitterrand, je crois qu'on ne fait pas ça. Ou alors, on prend le risque de salir le nom qu'on porte.
D'accord. C'est-à-dire que vous avez vu ces images comme Luc Rosenfeld les voit, c'est-à-dire...
Elle démontre quelque chose.
Ouais. Oui. Alors, vous voyez, voilà, deux téléspectateurs...
J'écoute ce que vous dites, peut-être faut-il
inspecter les choses.
Je crois qu'on néglige le fait qu'il y a tout un débat autour, que c'est un prétexte, que c'est, si vous voulez, quand sur une table vous mettez l'écharpe rouge de Mitterrand, ou la soi-disant écharpe rouge, il y avait aussi d'autres choses. J'avais mis des assiettes, par exemple, qui étaient des assiettes dans lesquelles Mitterrand était supposé avoir dîné avec Bousquet. Donc il y avait le nombre d'assiettes qui correspondait au nombre de repas qu'il a eu.
Ça,
il y avait aussi,
ça, fait, hein.
Voilà, vous les voyez, ça n'a pas été marqué. J'avais aussi mis, par exemple, des boulons de la dernière guillotine. Vous les voyez derrière, c'est ceux qui ne servaient plus à rien après l'abolition. Donc j'ai voulu justement donner une image un petit peu caricaturale de Mitterrand, mais nuancée, et voir qu'est-ce que le nom Mitterrand provoquait comme réaction. Je suis d'accord que ça fait du coup une certaine caricature, mais accepter l'idée que je puisse en parler un petit peu après, développer ça, et que ça n'est pas aussi poujadiste, même dans les réactions des gens. Mais bon, je suis d'accord, mais je vous dis pas que on est sur le fil du rasoir.
Oui, mais je suis d'accord avec vous. Moi, je soutiendrai plutôt votre initiative, je trouve votre séquence tout à fait intéressante. Mais franchement, il n'est pas poujadiste, à mon avis, de s'indigner du fait que quelqu'un ait un compte en Suisse avec 13 millions de francs dessus qu'il ne déclare pas au fisc. C'est pas être poujadiste, enfin, c'est être normalement constitué. Son argent, on le déclare au fisc français, point à la ligne.
Et puis, on est c'est cette sorte d'exultation, d'exaltation et d'éructation contre des gens qui ne sont pas encore jugés. C'est ça qui est toujours un peu inquiétant.
Et l'existence du compte en Suisse est admise.
Oui.
Il l'a reconnu.
C'est très mal. Voilà.
Très bien, merci pour cette morale. Alors, justement, ça nous amène sur le sujet suivant, qui est finalement de se demander, et nos enfants dans tout ça, quelle est l'image qui est donnée de la politique, des hommes politiques, de la responsabilité politique par ce type de séquence. Alors, Raphaël Bott est allé dans une classe de 5e du lycée, du collège, pardon, Jean Jaurès, vous voyez, ça tombe bien, collège Jean Jaurès à Clichy, à propos du rappel de valeurs civiques élémentaires, et leur a montré une séquence qui est aussi extraite de l'émission de Laurent Ruquier. Alors, il faut resituer, Jean Tibéri est sur le plateau, sur le plateau de chez Ruquier, et une équipe de l'émission se rend aux journées parlementaires du RPR au Croisic.
Bonjour, ici Dan Bollander au Croisic. J'ai testé une pétition de soutien à Jean Tibéri aux journées parlementaires du RPR.
Monsieur Juppé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes au courant de la pétition?
Non, je ne suis pas au courant.
Je peux... Non, non, mais je peux juste vous faire signer?
Non, non.
Bonjour. Vous êtes au courant de la pétition?
Non.
Bah, il est venu voir les réactions des gens qui travaillent au RPR en leur proposant une pétition au comité du soutien de Jean Tibéri pour voir leur réaction, s'ils allaient dire oui ou non.
En même temps, je pense que c'était pour faire rire les gens. Parce que il savait un peu quand même, je pense, qu'il n'y aurait pas beaucoup de monde qui aurait pris ça.
Tu veux pas. Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis.
Mettre un autocollant sur un beau costume et de ça, bon, ça le fait pas tellement.
Je trouve que l'autocollant, c'est un peu pour se foutre de leur gueule. Enfin, excusez-moi de dire ça, mais déjà, on a vu la réaction après la pétition. Et puis, lui, il insiste tout le temps. Il colle un truc, j'aime Jean Tibéri. C'est pour les provoquer un petit peu.
Le cœur, il est très grand. C'est pour qu'on voie bien, j'adore Tibéri. C'est vraiment un ami.
Parce que je pense qu'il y avait écrit, j'aime Jean Tibéri. Enfin, c'est comme un truc dans ce genre. Mais bon, c'est pas non plus leur femme. Hein.
On n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu pour voir le défilé.
Je vous laisse en souvenir.
Oui, écoutez, je vais vous laisser un autre souvenir, si vous continuez à m'emmerder, vous allez voir.
Quand même pas dire ce gros mot comme ça. Mais parce que déjà, c'est devant la télé, il y a plein de personnes qui le regardent. Donc il aura une mauvaise réputation, c'est clair.
Le présentateur, il est... Il respecte pas l'homme politique. Enfin.
En quoi il le respecte pas?
Bah, c'est que l'homme politique, il lui dit qu'il veut pas. Et lui, bah, il continue quand même. Donc, il fait exprès, donc, pour l'émission de télévision. Si j'étais à la place des hommes politiques, c'est vrai que j'aimerais pas trop. Mais moi, j'aime bien quand même, parce que quand on les voit au quotidien, ils sont pas drôles. Enfin, sauf quand ils disent une gaffe ou un truc comme ça. Ils sont pas très drôles, ils sont plutôt. Un peu raide, quoi, ils sont...
Quand on regarde les hommes politiques à la télé, c'est pas pour rigoler. C'est pour regarder leur opinion et tout ça.
Quand on voit Michèle Alliot-Marie qui passe devant la caméra, elle est toute calme, elle dit « Ah, je ne signe rien », comme ça. Ouais. Parce que moi, souvent, je regarde l'émission parodique, le Politique Maroc, et puis elle passe souvent dedans. Et donc, au bout d'un moment, on dirait, les hommes politiques, ils s'y habituent, puis après, ils disent plus rien.
C'est pas la vidéo de Jean-Claude Méry, mais c'est une vidéo qui peut vous faire permettre de faire le tri parmi vos amis.
Voilà, ils ont été curieux, là. Ils n'ont pas toujours le sens de l'humour.
Il a réagi d'une manière décontractée, il parlait, il était excité, celui-là. Enfin, je sais pas, moi j'aurais été mère, j'aurais pas parlé comme ça.
De faire rire les gens, ça lui permet d'avoir pas spécialement une nouvelle image, mais peut-être qu'après les gens, ils vont changer d'avis sur lui. Parce que comme il a fait des trucs pas bien, je crois, le fait de faire rire les gens... Ils vont se dire... Et puis, on dirait un peu plus qu'il est honnête, là. Donc, les gens, ils vont plus avoir confiance en lui, peut-être. De faire ce qu'il fait. De rigoler. Ouais.
Mais ce que tu viens de dire, ça veut dire qu'il nous fait rire pour qu'on oublie ses affaires.
Sûrement. Sinon, qu'est-ce qu'il en a à faire, lui, de toute façon, de ses émissions?
Alors c'est très très compliqué hein, ces séquences, hein. c'est comme on dit, c'est polysémique. Alors simplement pour rebondir sur ce que dit le dernier collégien, est-ce que Tibéri Chéruquier, c'est pas une formidable machine à blanchir Tibéri?
Formidable machine, non, mais je crois que les hommes politiques aillent chez Ruquier et Ardisson, qu'ils aillent dans les anciennes émissions sérieuses, ils y allaient parce que ça les servait. Drucker ne le sert pas plus que quand il passait à l'heure de vérité. Ça n'est pas vrai, les hommes politiques.
Vous êtes là pour les servir.
Non, je crois que eux ont l'idée que ça. Qui d'abord nous?
Vous, les chroniqueurs de Chéruquier, l'équipe de Chéruquier.
Non, je crois que nous, ça nous amuse toujours de voir que ces hommes politiques-là sont capables de venir chez nous. On reste encore très enfants pour ça. C'est chaque fois qu'on me dit chez Drucker, tiens, la prochaine fois il y aura Balladur ou la prochaine fois il y aura Giscard, je dis c'est pas croyable qu'ils viennent. Donc je suis pas encore blasé là-dessus.
C'est même un peu. C'est vous qui avez raison.
Voilà. Donc,
c'est étonnant qu'ils viennent et chacun joue au plus malin. C'est que eux croient que ça va les servir parce que ça va changer leur image. Et ils se rendent pas compte qu'en fait, ils se déconsidèrent.
Je ne sais pas s'ils étaient considérés, mais pour répondre à votre question, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas d'ambition particulière lorsque je suis chez
Drucker. Je les considère aux yeux des
commentaires. Oui, non, mais j'ai pas d'ambition de les renforcer.
Vous n'avez pas d'ambition, vous êtes citoyen.
Oui.
Bon, et pour reprendre une problématique qu'on a depuis le début de cette émission et que vous aimez bien, vous êtes plutôt pour renforcer la démocratie que pour l'affaiblir.
Oui.
Donc vous pensez que ce type d'émission renforce la démocratie?
Non, je pense qu'à l'occasion de ces émissions, on peut dire un certain nombre de choses. Moi, je suis à la télévision et à la radio que parce qu'on me laisse dire un certain nombre de choses. Qu'on me les dise dans des contextes sérieux ou pas sérieux, que je vienne chez vous, chez Drucker, franchement, je ne fais pas de différence.
Merci.
Vraiment pas de différence. Je considère que la question, c'est qu'est-ce qu'on va y dire. C'est comme les gens qui disent, moi, je n'écrirai jamais dans tel journal. À partir du moment où c'est un journal démocratique, moi, je ne fais pas de grande différence entre les différents organes de presse.
Il n'y a pas seulement ce qu'on dit, il y a ce qui est reçu. Puisque vous tentez de passer, par exemple, dans la séquence Jean-Christophe Mitterrand, vous tentez de faire passer un message pour la présomption d'innocence, en gros. Hein, et vous voyez bien que c'est le message inverse qui est reçu.
Le malentendu est au cœur de la communication. Il y a des gens qui ont compris autre chose.
Dans notre conversation, parce qu'on va un peu vite, peut-être qu'on aura l'occasion d'y venir.
C'est les médias, vous savez.
Oui, mais l'émission de Drucker, à mon avis, doit être mise à part. Mais Ardisson et Ruquier permettent aux hommes politiques de compléter leur image. Voilà, parce qu'on est sorti du magistère politique. On vient là, on est parfois ridiculisé, on est dans l'humour, on rit. Du coup, tout bon, moi je ne l'ai jamais vu rire de l'hélicoptère. Quand on lui en parle, il fait toujours une tronche de
sauf là.
Là, il en rit. Voilà, donc on globalise une image et on est plus juste avec les hommes politiques. À Drucker, c'est tout à fait autre chose.
On parle peu des affaires chez Drucker. Oui, Luc Rosenfeld.
Tout simplement, je dis que c'est ce qu'on voit là à la télévision. Moi, je vis la politique de manière un peu différente que vous la vivez, vous. C'est-à-dire, je la vois à la base. C'est-à-dire, avec qui je vis la politique. Je vis avec un maire qui a 10 000 balles par mois et qui se défonce pour faire l'assistance sociale, le chef chantier, etc.
Avec ça se passe en Haute-Savoie.
Un conseiller général qui gagne un salaire de 4 parisiens et qui surveille les 3000 km de route départementale où le moine de poule lui est reproché, avec un député qui boit un peu trop, il se met en spectacle aussi dans les...
Alors, je suis totalement en
désaccord politiquement, mais que je trouve il fait son travail. Donc, pour moi, je dis que ce sont des gens humains qui ont été à un certain niveau de la pratique politique déshumanisés par le rôle, la communication, enfin tout ce qui est. Moi, je trouve que c'est un retour aux pratiques plus anciennes, hein, de comices agricoles, de banquets, de trucs comme ça. Voilà, c'est pour ça c'est que tout. Moi, qui ai un peu le rôle de docteur Pangloss ici, je dis, c'est pas si mal que ça.
C'est pas la fin du politique, comme disait Zemmour tout à l'heure. C'est un cycle qui revient. Il y a une image dans le sujet qu'on vient de voir, là, sur laquelle j'aimerais bien vous interroger, vous. Alors, on voit effectivement le journaliste, l'envoyé spécial de Laurent Ruquier, tenter de coller cet autocollant sur le manteau d'un politique, Patrick Devedjian, qui refuse.
Moi, j'aurais mis mon poing dans la gueule.
Ça, je n'aime pas du tout ça, par exemple. Je trouve qu'il y a une limite, justement, dans l'humour, c'est dès qu'on s'en prend à l'intégrité physique. Moi, je n'ai jamais aimé le type qui balance des tartes à la gueule des autres. On peut dire que ce n'est pas méchant, ce n'est pas des coups. Dès le moment où on commence à s'en prendre physiquement à l'autre, même si c'est par une tarte ou un autocollant, j'aime pas ça. Donc, c'est vrai que pour moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est trop. Qu'on parle avec quelqu'un, qu'on s'en moque, mais qu'on commence à le toucher. Pas dire le frapper, évidemment, je trouve que c'est trop. Moi, c'est la limite.
Non, mais c'est une image très violente.
Oui, j'ai pas du tout aimé cette image.
Mais d'ailleurs, il réagit très violemment.
Alors, vous avez remarqué qu'une des collégiennes a prononcé le nom de Michel Alliot-Marie. Alors là, dis donc, ils sont en cinquième. Et alors, Raphaël Bott nous l'a juré, elle leur a pas soufflé le nom de Michel Alliot-Marie. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a fait un petit sondage dans la classe après. Non, même pas. Non, c'est à Clichy. Vous savez comment ils connaissent Michel Alliot-Marie? Par cette émission dont ils viennent de parler, il s'appelle Politiquement Rock. Qui la connaît autour de cette table?
Non.
Personne.
Non.
Personne. Alors, Politiquement Rock, ça passe chaque semaine sur M6 et Politiquement Rock, c'est ça.
Numéro 1 dans le hit cette semaine, on ne tient plus Philippe Séguin, rempli de désirs brûlants pour Michel Alliot-Marie.
Cette fameuse question revient souvent. Pourquoi es-tu l'élu allongé nu sur mon divan? Simple, tu me donnes pas de leçons. Prends mes potes comme ils sont. Mauvais garçon, je suis là. Car même mon pit te kiffe. Lâche son os quand tu te promènes en soutif. Boum boum, mon cœur fait boum boum. Plonge tes yeux dans mon regard amoureux. Viens, ramasse mon cœur à la casse. Comme un tour de passe-passe. Et l'amour fait surface. Lasse des face à face avec des tasses. Mais je brasse des liasses. Et ça a de mauvais aspects.
Alors, franchement, je ne comprends pas. Parce que vous arrêtez pas de rigoler, là.
Et vous dites.
Non, pas du tout. Vous déploriez la perte de solennité
Attendez.
De noblesse. Et alors, on prend leurs images, on se les approprie, on colle une musique, un montage.
Mais j'ai le droit de rire.
Mais bien sûr, non, mais alors, je voudrais que vous m'expliquiez votre rire.
Mais je ne suis pas, je ne suis pas fait d'un seul bloc. Il expliquera beaucoup mieux que moi.
Il est très enfant. Ouais.
Moi, j'ai gardé mon regard d'enfant sur plein de choses. Et en même temps, j'ai le droit d'avoir un regard aussi plus réfléchi sur l'avenir de la politique dans ce pays, ce qu'elle a été, ce qu'elle devient.
Donc, il y a Éric et il y a Zemmour.
Si vous voulez.
Ouais. Et alors, par exemple, ça, c'est le
fait moi, les guignols me font hurler de rire.
Oui, bien sûr.
Etc.
C'est pas tout.
Non, mais je suis d'accord.
C'est
les
guignols, c'est tout ça.
Ah oui, mais là, c'est pas les marionnettes, c'est leurs images.
Oui, c'est pareil. Les marionnettes, c'était la représentation des gens.
Ah, c'est pas du tout pareil. Enfin, pour moi, c'est pas du tout pareil. C'est leurs images à eux qu'on a pris et sur lesquelles on les fait.
Ces enfants ont fait la preuve par leur discours qu'ils n'étaient pas totalement idiots. Ils allaient reconnaître quand c'est vrai et quand c'est manipulé.
Ce qui serait intéressant quand on découvre ces images-là, je dois avouer que ce serait intéressant de savoir pourquoi les gens qui ont imaginé cette émission l'ont conçue comme ça. Pourquoi ils ont pensé qu'un public assez jeune, 12 ans, 14 ans, pourrait être amusé par des paroles sur des images d'hommes politiques. Ce serait très intéressant.
C'est drôle parce que c'est exactement la question que je me posais en regardant ça. Je me disais comme quoi le politique, quelque part, est encore sacré dans ce pays. Si on s'en moque...
Et vous envoyez le signe dans cette...
Oui, évidemment, bien sûr, puisqu'on se sert d'images de politique... Oui. C'est ça. Pour montrer de la désacralisation. Ça prouve que c'est encore du sacré.
Ils ont toujours une place centrale.
Je vais commencer à ça. Oui, vous réfléchissez, votre âme d'enfant.
Ils ont visiblement toujours dans l'imaginaire, les politiques, une place centrale.
On a transmis ça à ces mômes-là quand même.
Une place centrale, mais le travail de la démocratie fait qu'on les désacralise.
Mais c'est pas la démocratie.
Un des aspects positifs de tout ce qu'on évoque depuis le début de votre émission, c'est peut-être le fait que les gens se rendent compte que la politique, ça ne doit pas se limiter justement aux hommes politiques. Le mot politique que nous aimons, peut-être que c'est aussi le travail associatif, c'est le travail des quartiers, c'est donc un travail plus de base. Et là, après tout, en désacralisant, comme vous le dites, la politique d'en haut, peut-être qu'on renforce un petit peu la politique d'en bas. C'est pas un
jamais
possible non plus.
Aussi vivante.
Bon, mais
donc, vive politiquement.
Ouais, mais en tout cas, tu te vois moins à la télé.
Bien sûr, tu te vois moins à la télé. Mais la télé n'est pas tout dans la vie.
Mais c'est vrai, c'est vrai. Ici.
Ouais, d'accord. Ici,
on a un champ très...
C'est pas ce que vous dites. Juste une remarque, c'est quand les gens me disent « Mais vous faites autre chose que de la télé. » Je leur dis « Jusqu'à présent, je fais 3 heures de télé, disons, par semaine, ou 2 heures
plus
de télé. »
Plus une, là, cette semaine.
Voilà, non, mais je l'avais inclus déjà dans l'heure de télé. Donc, c'est tout. Et les semaines sont quand même beaucoup plus longues. Les gens ont l'impression, parce qu'ils vous voient là, que ça concentre toute votre vie.
Alors, on a parlé de beaucoup d'émissions de rigolade, qui sont un peu des espaces nouveaux comme ça. Mais le dernier phénomène, moi, qui me paraît intéressant, c'est que même la presse dite sérieuse, les médias dits sérieux, les émissions dites sérieuses, j'ai l'impression, sont progressivement gagnées par cet esprit de dérision et d'ironie. Alors, j'en prendrai un seul signe. C'est la manchette du Monde, le lendemain de l'interview de Chirac à TF1, avec cette fameuse phrase, là, je ne peux pas y croire. Alors, donc, le Monde reprend ça en manchette, avec le point exclamation, les guillemets. Et il m'a semblé, dans mon souvenir, c'était la première fois que Le Monde faisait une manchette comique. Oui. C'est-à-dire une manchette
ironique.
Visant... Ironique. Ouais. Ironique.
Du canard enchaîné.
Comme si c'était Plantu qui avait fait la manchette, ou comme si c'était le...
C'est vrai. La Libération fait ça depuis très longtemps, tout en étant un journal sérieux, néanmoins.
Oui, moins sérieux que Le Monde. Alors, une réaction là-dessus, sur le...
Donc, l'ironie, on l'a bien... Mais c'est parce que, au fond, Chirac, ce soir-là, nous donne... Tout à l'heure, vous aviez dit, Gérard Miller, que faute de preuves... Au contraire, on était bien obligés, enfin, on pouvait le croire, Chirac. Chirac, là, nous donne une information. Jacques Chirac est un homme politique, il est un homme politique depuis maintenant 40 ans. Lui qui vit la politique dans la coulisse, il sait, comme nous tous, que des rumeurs sur des financements illégaux des partis politiques, c'est aussi vieux que la politique. Et donc, entendre Jacques Chirac, à un moment où les juges amènent des pièces et commencent à dévoiler tout un système, demeurer sur une position assez archaïque, je ne peux pas y croire. C'est à la fois une information...
Laquelle ?
L'information que Jacques Chirac, comment dirais-je ? Oui, reste sur une position antédéluvienne. On a dépassé ce discours-là. Tous les hommes politiques disent « il s'est sûrement passé quelque chose ». Alors moi, je ne sais pas. Mais lui, il dit « je ne peux pas y croire ».
Donc pour vous, c'est une manchette informative. Cette manchette du Monde...
Elle a aussi bien sûr.
Est une manchette
tout
informative.
Est dans le Y. Parce que
pourquoi tout est dans le lien ?
C'est ce qui est intéressant. Moi, d'abord, tout ce que fait mon rédacteur en chef est parfait, d'une part. Et d'autre part, c'est de dire c'est une manchette qui n'est pas informative. C'est parce que c'est une citation du président. Et y croire, tout le monde est supposé savoir ce dont il s'agit. Donc, ça veut dire, je suppose, qu'on a cru que je sais pas, il, je peux pas y croire en Dieu,
donc juste un élément d'information. Allez-y. C'était la première fois que Jacques Chirac parlait des affaires. Parce que dans les étapes.
La deuxième. Il est intervenu le lendemain de la
crise sanitaire.
Ah oui, juste avant. Oui, mais
en longueur.
Un 14 juillet, juste avant, quand Paul Darvaux va l'interroger sur les affaires de Paris, il dit mais c'est de l'insolence, monsieur. Donc, le fait que Jacques Chirac dise je ne peux pas croire qu'il y ait eu comme ça dans mon parti, puis dans la vie politique en général, des financements illégaux, je ne peux pas y croire. C'est la première fois que nous avons la pensée du président de la République.
Oui, bien sûr.
Donc, c'est ça aussi, vous savez, les premières fois en termes d'information, ça a de la valeur.
Mais alors, pour terminer sur cette phrase, alors, on a bien compris, c'est une information, elle vous fait rire ou elle vous fait pleurer, plutôt?
Moi, elle me consterne un peu. Parce que c'est une ligne de défense qui ne durera pas.
D'accord.
Vous savez que, pour faire le lien avec vos émissions précédentes, cette phrase a été, enfin, pas vos émissions précédentes, mais le début de l'émission, le milieu de l'émission, cette phrase a été reprise par Ardisson en jingle.
Oui, absolument.
Comme
absolument.
C'est la phrase de Balladur, je vous demande de vous taire. Maintenant, il passe, je ne peux pas y croire, par Chirac.
Et ça va devenir un
grand jingle. Et ça va devenir un jingle qui passe tout le temps.
Et l'actualité va nous fournir de nombreux jingles. Vous disiez que vous faisiez 3 heures de télévision par semaine. Il y en a une de plus à partir de cette semaine, puisque les hasards de l'actualité font que dans 4 heures, les téléspectateurs de la 5e retrouveront Gérard Miller pour une nouvelle émission qui s'appelle Le Goût du Noir. Donc, si vous êtes millérophobe, évitez la 5e à 17h30.
C'est dans le noir, finalement.
C'est vrai que c'est dans le noir. Sinon, vous pouvez toujours aller y faire un tour. Rediffusion de cette émission jeudi 10h. Prochain arrêt sur image, dimanche prochain à 12h30. Au revoir à tous. Voilà, c'est terminé. Si vous avez regardé ou écouté cette émission sans être abonné, c'est que nos abonnés vous l'ont offerte. Sans abonné, pas d'arrêt sur image. Alors vous aussi, abonnez-vous.